Comme je le dis, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons parler de Tu Bishvat, mais d'une manière générale, nous allons parler de la sainteté de la nature elle-même. C'est-à-dire que la nature a une sainteté qui lui est propre, et nous rappelons quelque chose de trivial, que celui qui a créé la Neshama a aussi créé le corps. La même unité divine est à la base de toute la création tout entière, sans aucun recoin qui n'est pas sous sa domination, sous sa protection et sous son influence continue permanente. Rien ne peut vivre dans ce monde si ce n'est que par l'être suprême. L'être suprême, Shem Havaya, qui fait vivre le tout. Alors, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle Akdusha Shebateva, et donc qui parle de cette sainteté. Chazal Kavu, nos sages ont fixé quelque chose de bizarre, de Masoret, Likro Batorah et Yetziat Mitzrayim Davka Bechodesh Shvat. C'est-à-dire, on lit dans le texte de la Torah le récit de la sortie d'Égypte, précisément durant le mois de Shvat. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici de quelque chose qui n'est pas logique. Si je parle de la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte a eu lieu en Nissan, donc normalement on devrait lire à Nissan. Que vient faire le texte de la sortie d'Égypte dans le mois de Shvat? Les sages ont fait exprès de nous donner ici quelque chose de très profond. Et non seulement c'est dans le mois de Shvat, mais la sortie d'Égypte elle-même, qui est lue donc dans la paracha de Béchalach, se lit vraiment à la semaine où nous fêtons Tu Bishvat. Rappelez-vous que la sortie d'Égypte a eu lieu le 15 du mois, okay? Et comme par hasard, nous sommes en même temps, au moment de la lecture de la sortie d'Égypte, donc le 15 Nissan, nous sommes dans notre temps, dans notre calendrier, le 15 de Shvat. D'accord? Alors on va le lire sur le texte. Yeshno Kesher Amis, il y a donc un lien très profond, très fort, ben tu le chodesh Nissan, entre la date, donc Tetvav 15 du mois de Nissan, le ben tu bishvat, avec le mois de Shvat, le 15 du mois de Shvat. Il y a un lien. Puisque je lis le texte de tu Nissan, qui est la sortie d'Égypte, à tu bishvat. Vous comprenez le lien? C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû lire ce texte-là au moment où les enfants d'Israël sont sortis réellement. 15 Nissan. Alors que je lis ce texte le 15 du mois de Shvat. Donc il y a ici quelque chose de voulu, de volontaire, de caché, et nous devons le décoder. Donc, Geulat Mitzrayim Nechtema Besha'a She'am Israël Yoshev Aladmato Umafreota. Je tire la conclusion, très simple. C'est que la sortie d'Égypte se termine, en fait, que lorsque le peuple d'Israël arrive à sa terre et qu'il a fécondé. C'est-à-dire que la terre d'Israël, tant qu'elle est vide de ses habitants, de ses enfants, de son peuple, eh bien, c'est comme si la sortie d'Égypte n'était pas encore terminée. Quand est-ce que la sortie d'Égypte se termine? Quand on rentre en Eretz Israël, justement, cette notion que nous fêtons à Tu Bishvat. Je vais dire avec des mots simples, qui ne sont pas dans le texte, bien entendu, mais vous comprenez maintenant la référence. Le Tu Nissan se termine à Tu Bishvat. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte se termine avec l'entrée des enfants d'Israël sur la terre, et pas seulement leur entrée sur la terre, mais le fait de faire sortir de cette terre, toute son abondance, qui est cachée à l'intérieur d'elle-même. D'accord? La terre d'Israël ne donne pas ses fruits, si ce n'est qu'à son propre peuple. pendant des milliers d'années, la terre était vide, et même si elle était habitée par d'autres nations, elle ne donnait rien. Donc elle attend que ses enfants reviennent en elle, sur elle, pour commencer à donner ses fruits. Tout à fait. Tout à fait. C'est la même chose comme le Gouche Katif. Pendant que les enfants d'Israël étaient là-bas, la terre donnée, dès que nous sommes sortis de là-bas, les mêmes infrastructures sont restées, les mêmes employés palestiniens sont restés, qui travaillaient chez les enfants d'Israël, mais la terre ne donne plus rien. C'est fini. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici de réel, qui est habillé dans la matière et dans la réalité terrestre, palpable. C'est-à-dire, on ne peut pas nous raconter d'histoire. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement, qui n'est pas logique, mais qui est. Nous le constatons, nous le voyons. Donc nous sommes face à une réalité qui dit la chose suivante, c'est que le peuple d'Israël joue le rôle d'un homme par rapport à la terre d'Israël qui joue le rôle d'une femme. Et tant qu'il n'y a pas homme-femme, il n'y a pas d'enfant. Et ici, les enfants sont bien entendu les fruits de notre union. Donc en fait, les fruits de la terre d'Israël sont les fruits de l'union entre le peuple d'Israël, qui joue le rôle de l'homme, et la terre d'Israël, qui joue le rôle de la femme. Et donc notre mariage, en fait, réel, a commencé à la sortie d'Égypte, mais on est encore loin de cette terre, et entre guillemets, elle prend toute sa forme, toute sa force, à Tu Bishvat. Donc Tu Bishvat va devenir en fait une fête, qui marque le lien entre le peuple et la terre et les fruits de ce lien, c'est-à-dire les enfants de ce lien, l'abondance qui sort de la terre. Vidouim divrei Chazal, ce n'est pas par hasard que les sages nous ont dit dans la Gemara, En lecha ketz megoulé mizé, tu n'as pas de fin aussi claire, de fin des temps aussi claire que quoi? Chez Eretz Israël notenet perotea be'ayin yafa. Que lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits avec un bon œil. Qu'est-ce que ça veut dire avec un bon œil? Avec générosité. C'est-à-dire quand il y aura beaucoup de fruits sortis de la terre d'Israël, issus de ses entrailles, mais ça voudra dire que nous sommes réellement à la fin du processus. Nous sommes dans un moment de Géoula, nous sommes dans une rédemption qui s'approche de sa totalité. Pourquoi les sages ont choisi les fruits, ce phénomène-là, et pas autre chose? C'est bizarre quand même. Mais ça veut dire que la concrétisation d'un mariage, ce sont les enfants. Mais la même chose, la concrétisation de notre union avec notre terre, c'est les fruits de cette union. Donc les fruits de la terre d'Israël, c'est en réalité les fruits de notre amour. Quand vous consommez un fruit de cette terre, en réalité, vous mangez, entre guillemets, vous profitez, vous vous remplissez, vous vous imprégnez de vos propres enfants. C'est comme si vos propres enfants vous rentraient dedans et vous donnent un bonheur intérieur. Donc ça, c'est la fin des temps. La Gemara aurait pu choisir autre chose, que la fin des temps, c'est lorsqu'on ouvrira des yeshivot, la fin des temps, c'est lorsque je ne sais pas quoi. Non. Les Chachamim nous disent, il n'y a pas aussi clair pour montrer qu'on nous sommes à la fin du processus que les fruits donnent. La terre donne ses fruits. C'est bizarre parce que la terre ne donne pas ses fruits tant que les enfants ne sont pas là. Donc je peux absolument faire, par analogie, que la fin des temps, c'est lorsque les enfants d'Israël reviennent sur leur terre. Tout simplement. Et ceux qui ne comprennent pas ce message restent religieux en dehors de cette terre. Et ils ont l'impression qu'en étant religieux à l'extérieur de cette terre, ils font leur devoir de juifs. La réponse est claire par la Gemara. Donc, tant que vous restez là-bas et que la terre ne donne pas ses fruits parce que vous n'êtes pas là pour elle, et donc elle n'est pas là pour vous, il n'y a pas d'union entre vous, eh bien, ce n'est pas encore la rédemption. Ça ne peut pas être la rédemption totale.
Donc, la terre a donné des fruits, là, en fait.
Oui, parce que nous sommes revenus. Donc, moralité, le but est notre retour.
Mais on nous a dit que déjà, ça avait été
instauré il n'y a pas très longtemps. Tu Bishvat n'a pas été instauré par il n'y a pas longtemps. C'est pas le cas. Tout Bishvat existe depuis tout le temps. Mais ce n'était pas fêté comme on le fête aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de seder. D'accord? De Tout Bishvat. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que tant que le peuple d'Israël n'était pas revenu sur cette terre, même cette notion était inconnue. Donc qu'est-ce qu'on fêtait en réalité à Tout Bishvat? Non. Avant. C'était une histoire de quoi? C'était quoi la date de Tout Bishvat?
Ah, c'était la récolte.
Tout à fait, c'était lié à quoi? À Rosh Hashanah, la Ilan, c'est-à-dire il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année. L'un d'entre eux, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Ok? De l'arbre. De ce que représente l'arbre. Ok? Mais, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ben, j'en sais rien, j'ai marqué juste cette date dans mon calendrier, c'est-à-dire que ce qui était au niveau du Maaser que je faisais l'année dernière, quand est-ce que je commence à faire le Maaser de la nouvelle année? Eh bien, le mois de Shvat. Ou bien au début de Shvat, ou bien au 15. Ça, c'est une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Aujourd'hui, nous allons comme Beth Hillel, donc nous fêtons Tout Bishvat le 15. Alors que Beth Shammai fête Tout Bishvat Rosh Chodesh. Ok? Ça, c'est une autre histoire. Mais la fête de Tout Bishvat telle que nous la connaissons aujourd'hui, effectivement, elle a commencé il y a combien de temps? C'est-à-dire? C'est-à-dire il y a 500 ans. Exactement. Il y a à peu près 500 ans que Tout Bishvat est fêté comme aujourd'hui. Qui a instauré ça? Quel sage? Mais quelle qualité ils avaient de sagesse? C'était quoi précisément? Nachon, donc, c'était des sages qui ont gardé le lien avec la terre d'Israël. C'était donc des kabbalistes. C'est les kabbalistes, et notamment en tête, le Hari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Quand ils sont arrivés en Israël avec ses élèves, c'est eux qui ont remis au goût du jour tous les sages de la Kabbalah de cette époque, Rabbi Moshe Cordovero et tous ses disciples. C'est eux qui ont fait en sorte que Tout Bishvat redevienne ce qu'il devait être dès le début. Et donc, qu'est-ce que c'est devenu en fait, Tout Bishvat, à partir de ce moment-là? Pas seulement une date qui marque l'année d'avant et l'année d'après au niveau des arbres, mais un lien beaucoup plus profond avec la terre d'Israël, au point où nous devons consommer des fruits et faire des bénédictions, et ils nous ont même écrit des textes concernant le Seder de Tout Bishvat, en nous disant qu'en réalité, tous les fruits viennent de trois mondes kabbalistiques, qui s'appellent Bria, Yetzira et Asiya, c'est-à-dire le monde de la création, le monde du façonnage et le monde de l'action. Et bien, dans ces trois mondes, il y a en réalité trois sortes de fruits. Dans le monde le plus élevé, que je viens de citer maintenant, c'est pas le monde le plus élevé, parce que le monde le plus élevé, il s'appelle Atzilut. Mais là-bas, il n'y a pas de fruits encore. C'est juste le monde du départ, on va dire, de la notion de pensée. La réalité, la sortie, le dévoilement du premier fruit, c'est dans le monde d'après, Bria. Dans le monde de Bria, quelles sortes de fruits apparaissent? Ça, c'est les kabbalistes, donc, qui nous disent, bien, des fruits qui n'ont ni noyau, ni peau extérieure. C'est-à-dire que tu peux tout manger.
Il
n'y a pas de clipa. Tu peux manger la fraise, tu la manges tout entière, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est des fruits qui montrent, même dans le fruit lui-même, que ces fruits ont une qualité extraordinaire, parce qu'il n'y a rien à jeter, en fait. D'accord? Bria d'abord, le monde du haut vers le bas, monde de Bria, c'est-à-dire de la création, Bara, Boré. Après le monde de Yetzira, du monde de la, du façonnage des choses, de la concrétisation, et le monde de Asiya, la Asot, le monde de l'action, qu'on appelle aussi Olam Atikoun. Dernier, c'est l'action. Asiya. La Asot, en hébreu. À l'infinitif, la Asot.
C'est marrant, on pourrait penser que ceux qui sont dans Bria, c'est comme c'est le monde d'en haut de la création, ce serait ceux qui sont, par exemple, les dieux, mais genre le tout dans les arbres, genre pas dans la terre, genre.
Peu importe, c'est des fruits. D'accord. Alors, tout doucement. Alors,
les fruits dans le monde de la vous avez dit qu'ils n'ont pas d'écorce.
Ils n'ont pas d'écorce ni de noyau. D'accord. Ça, c'est le monde de la création, le monde le plus élevé, en fait. Donc, quand vous mangez un fruit, par exemple, de cette catégorie-là, sachez que vous mangez un fruit d'un monde supérieur. D'accord. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous vous remplissez d'une notion qui est kabbalistique. Pour l'instant, pour vous, c'est qu'une donnée. Mais les kabbalistes savent que c'est pas la même kavana. Peu importe, ils interdisent, ils peuvent interdire ce qu'ils veulent. Et la seule interdiction, c'est quand on voit les choses à vue d'œil et pas avec des appareils. Ça, c'est la véritable interdiction. D'accord? Sinon, on peut rien manger. Quand tu marches dans la rue, tu manges des milliards et des milliards d'acariens. Même dans cette pièce. Quel des cafards avec 10 têtes et 20 000 pattes. Alors, Ken, je peux te créer maintenant une machine, tu vas arrêter de respirer, tu vas arrêter de tout faire, parce que tout est rempli de tout. Donc, moralité, si on cherche les choses avec des appareils et des loupes et des machins, c'est sûr que tu verras toujours quelque chose. La halakha pure dit que ce qui est vu à l'œil, c'est tout. Donc, il faut arrêter de rajouter sans arrêt, on est devenu n'importe quoi aujourd'hui. Donc, moi, je suis pas d'accord avec toutes ces notions, mais peu importe, je reviens à la base. Le judaïsme est un judaïsme de vie normale, Ken, où les gens ont toujours consommé comme il fallait. Alors, les autres fruits, c'est le monde de Yetzira. Dans le monde de Yetzira, il y a, en fait, un noyau. Un fruit avec un noyau. Par exemple, une olive.
Le hadas est considéré comme un noyau ou deux noyaux?
C'est la même chose. C'est un noyau, mais qui est deux. Tu as raison, parce qu'il est, il est fendu au milieu. D'accord?
Le monde de
la
vie, c'est
l'âge des pépins. Non. D'accord, ça c'est le monde de Yetzira, c'est tout ce qui a pépins et grains.
Ah, noyau.
Noyau et pépins. D'accord?
Le raisin.
L'écorce se mange. Le raisin se mange, d'accord? Non. Et le dernier monde, c'est le monde de Assia, c'est là où il y a une écorce. Pas forcément un pépin, mais il y a une écorce. Normalement, il y a un pépin, mais pas forcément. Une orange, par exemple. Une noix de coco. D'accord? Il y a une écorce superficielle extérieure, qui est plus ou moins dure à casser. Non, la pomme se mange complètement. D'accord? D'accord. D'accord? Alors, en fait, dans ces... D'accord. Alors, on est ensemble. On revient à nos fruits. Ces trois mondes, le Hari, par exemple, avec son élève, le Rabbi Chaim Vital, disent qu'il faut, à tout Bishvat, avoir au moins 10 fruits de chacun de ces mondes.
Mais comment ils viennent?
D'accord. Alors, ils cherchaient, ils amenaient, ils faisaient, il n'y avait pas tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans ce que je dis tout à l'heure de la Gemara, que la terre donne des fruits avec un bon œil, c'est que nous sommes réellement dans la Géoula. D'accord? Donc, il faut chercher 10 fruits de chaque catégorie et les mettre à table et bien entendu avoir aussi les 16 fruits de la terre d'Israël. C'est-à-dire, vous vous rappelez les fruits de la terre d'Israël?
Oui, le blé, l'orge.
Le blé, l'orge.
La grenade, la date, le raisin, la figue, la grenade.
Voilà. D'accord? Donc, tout ceci... ce sont les 7 degrés que vous devez avoir aussi sur votre table à Tu Bishvat. Pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous qu'à Pessah, nous faisons aussi un seder. Eh bien, à Tu Bishvat, on fait maintenant un seder. Nachon. Ça veut dire que toutes les fêtes de l'année où il y a un seder, qu'est-ce que ça veut dire seder?
Un
ordre. Ça veut dire que quelque chose revient en ordre. Que représente l'ordre?
L'ordre.
Oui, quand tu as de l'ordre dans ta vie.
C'est pas d'aller vers une voiture, vers un but, c'est comme Israël, on va
dire. Un tikkun, une réparation. Les gens qui sont désordonnés, ça montre que leur monde intérieur, lui aussi, est désordonné. Ils n'ont pas d'ordre, donc ils sont un petit peu loin de leur réparation, de leur tikkun. C'est pour ça que tout ordre est important. Il faut toujours garder de l'ordre, même dans votre manière d'être, dans votre manière de parler, dans votre manière de ranger votre chambre. de la manière dont vous avez votre voiture, peu importe. Voilà. Votre cartable, votre sac. Ce qui range tout le temps, ça veut dire qu'ils ont toujours un besoin d'être dans un monde de tikkun. Maintenant, si c'est à outrance, ça devient une maladie. Faire attention. C'est vrai? Mais il faut une base d'ordre. Rappelez-vous que le mot, même en français, ordonner, c'est mettre de la lumière. Ordonner. D'accord?
Attendez, on le marque.
Un petit cadeau, ça va. Ça. En plus, elle fait comme ça avec les cheveux. C'est une expression féminine. Si je vais vous impressionner, elle est obligée de faire comme ça. Moi, je ne vous fais rien. J'ai tout coupé tout à l'heure. Non. Je rigole. Donc, vous avez compris, donc. Et ça, c'est le secret. D'ailleurs, le mot « ordinateur », c'est ça. C'est en réalité mettre de l'ordre dans toute la pensée. C'est pour ça que c'est très, très, très en place.
L'ordinateur,
mais mettre de l'ordre, c'est du din. C'est-à-dire, il faut du din, parce qu'il faut ordonner les choses, mais il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est pour ça qu'on verse un petit peu d'eau dans le vin de Shabbat. Pour mettre de l'eau dans son vin. D'accord ? Alors, ça c'est le secret donc de ce seder. Donc nous faisons des sedarim dans notre vie. Donc qui dit seder dit ordre. Quel est l'inverse du mot seder en hébreu? Dorès. Qui veut dire écraser, détruire. D'accord? Donc non, l'inverse. L'hydrose, l'inverse de l'ordre, c'est une destruction. Exactement. Dorès. Darat. Dalet resh tamer. Bimkom seder, qui veut dire désordre et écraser. C'est-à-dire faire une pâtée. Ne plus avoir de choses bien claires. Un petit exemple. Si je vous donne par exemple un plat très, très joli. D'accord? Je mets des haricots verts, je les attache avec une petite ficelle. Je vous mets une petite tranche de rôti très très haut niveau. Je vous mets à côté deux ou trois petits légumes. Voilà, tout ceci, c'est une belle assiette avec une feuille de salade. D'accord? Et je fais en sorte de mettre une petite sauce tout autour et par-dessus. Et quelques petites graines de poivre. Ça vous donne une belle assiette. Maintenant, je prends la même assiette et je la rentre dans le mixeur. Trois fois, 1, 2, 3. Et je vous donne ça, comme ça. Vous n'allez rien manger. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'inverse du céder, j'ai fait doré. J'ai tout écrasé. Alors, vous avez besoin, d'où l'importance aussi de la vision des choses. Et d'ailleurs, un petit conseil, ne mangez jamais quelque chose qui ne vous plaît pas à l'œil.
Pourquoi?
Parce que c'est dangereux pour la santé.
Ouais.
Et en plus de ça, si c'est une odeur qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, il faut sentir ce que vous mangez. Ce n'est pas honteux de sentir. C'est très important de sentir ce que vous mangez. Et si l'odeur vous est désagréable, c'est qu'elle n'est pas bonne pour votre corps.
Mais des fois, il y a des plats qui, d'aspect, sont pas beaux. Et quand on mange, c'est super beau. Et après, on...
Si ça te dégoûte pas, oui.
Ah, okay.
Mais si ça te dégoûte, tu n'as pas le droit de le manger, tu peux tomber malade.
Okay.
D'accord? C'est très grave. C'est une gmara meforeshet, c'est une halakha. C'est pas une invention comme ça, un conseil, c'est une halakha. Chas v'shalom, un homme peut devenir beseskat sakana, il peut tomber en danger, chas v'shalom, quand il mange quelque chose qui le dégoûte. Donc il faut faire très attention. C'est ce que je dis, donc il faut toujours demander, poser la question, sentir. Et sentir. De là vient l'expression, je peux pas te sentir. Ken, je rigole pas en plus, c'est vrai. Ça veut dire, c'est pas ton parfum. Ken, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est pour ça que le sens de l'odorat est tellement important.
Mon Dieu, je peux pas te voir.
Non, c'est pour ça que tous les sens, Ken, sont vraiment très 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 importants dans notre vie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch nous a donné ces cinq sens. Mais nous devons développer d'autres sens qui sont beaucoup plus profonds. C'est-à-dire à chaque sens superficiel correspond à un sens profond. C'est-à-dire il y a une vision de mes yeux, mais une vision beaucoup plus profonde. Il y a une oui extérieure, mais il y a une oui intérieure. Il faut être capable d'entendre des choses qui ne sont pas dites. Il faut être capable de sentir des choses que les autres ne sentent pas. Il faut être capable d'appréhender, de deviner, d'arriver à être très, 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 très sensible à plein de choses qui sont autour de nous. D'accord? Et ne pas être seulement grossier. Pourquoi c'est important? Pourquoi je vous parle maintenant de nourriture? Parce qu'en réalité, tout ça, c'est tout bishvat. Tout bishvat, c'est quoi le but de notre... Bien fait, c'est de manger. Donc le but de tout bishvat, il est simple, c'est de manger et de boire. Un plaisir. Alors, qu'est-ce que je fais quand je mange et je bois? Okay, comment on dit... ils sont là, nos copains?
Ils sont là, derrière.
Il faut
pas qu'on est là, c'est pas qu'on est bien, parce que les deux, c'est...
Achila. D'accord? Et Shkia.
Manger et boire.
Le nom d'Hachem, c'est, rappelez-vous, le tétragramme. D'accord? Yudke Vavke? Yudke Vav et Ke. Je prends les deux premières lettres, c'est-à-dire le Yud et le Vav, qui se trouve là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du Hari Akadosh. Le Harizal nous dit, c'est pas par hasard. Ces deux lettres correspondent à deux niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Un, la sagesse.
Non,
mon ami, il est mort. Bon. La sagesse et le discernement. Ok, donc, que se passe-t-il quand vous mangez? Vous mangez quoi en fait?
La sagesse.
Bien fait. Vous intégrez de la sagesse et du discernement. C'est-à-dire, achal yud vehe, veshata yud vehe. Donc, tu manges les deux premières lettres du nom d'Hachem et tu bois les deux premières lettres du nom d'Hachem. Pas seulement tu les étudies, tu les vois, tu les consommes. Donc tu intègres en fait dans ton être une sagesse divine et un discernement divin. Maintenant, si je pense à ça quand je mange, la nourriture est différente. C'est fini, elle a changé sa structure. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais c'est aujourd'hui prouvé, filmé en plus. Vous pouvez voir sur l'ordinateur, à partir du moment où j'ai fait une bénédiction et j'ai pensé en regardant la nourriture, elle a changé sa structure. Vous saviez ça? C'est incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez du riz dans une assiette et une autre assiette de riz dans une autre assiette. La même chose. Vous les mettez dans une vitrine de magasin à la rue King George. Ok? Il y a 10 000 personnes qui passent chaque jour devant cette vitrine. La seule différence, c'est qu'ici, je mets une malédiction. Un mot, pas très joli. Et là, je mets une bénédiction. Dans la même, les mêmes assiettes, le même riz, la même casserole, on a fait cuire en même temps. D'accord? Les gens passent, ils ne disent rien, ils lisent. C'est quoi ce truc-là? Là, ils lisent une bracha, là, ils lisent une klala. Au bout d'une semaine, le riz où il y avait la bracha reste et l'autre pourri avec des vers. C'est incroyable. Et c'est filmé par un scientifique japonais. L'expérience des gouttes d'eau, la même chose. D'accord? Toute la parole, la structure même de l'être change l'aspect et le devenir de la chose. Incroyable. Alors tant que c'était au niveau ésotérique, on se dit bon, c'est kabbaliste, c'est désallumé. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement comme quoi la science aide en fait, à trouver des choses que la Torah nous dit depuis longtemps. Donc, ce sont des choses, vous pouvez rentrer sur l'ordinateur, vous voyez, je ne me rappelle plus, c'est un japonais, un chercheur japonais qui s'appelle Yoji quelque chose, et vous voyez là-bas, structure des molécules de l'eau, par exemple du mikvé du Harizal, et du fleuve le plus pur au Japon. Le fleuve le plus pur au Japon donne une structure moléculaire qui ressemble à rien du tout, et le mikvé du Harizal est à une forme d'une étoile de David de tous les côtés. Une merveille. Maintenant, le type, c'est pas un juif, hein. Et ils ont fait des expériences avec plein d'aliments. Je vous dis juste un petit peu, j'ai amené tous mes élèves d'ailleurs à un film sur ce sujet. Extraordinaire. Ils sont sortis de là-bas, ils ont dit, attends, c'est de la folie. Et on peut le voir. Maintenant, j'ai un ami qui a inventé dans une école scientifique un micro qui est lié à un écran. Et chaque fois que tu dis un son, il y a comme une projection sur l'écran d'une tâche. D'accord ? Par exemple, tu dis, une saucisse, eh bien, tu as une tâche, selon le son.
Oui, c'est l'onde.
L'onde, exactement. Alors ce type-là qui est devenu docteur maintenant, qui est docteur, qui exerce à Jérusalem d'ailleurs, très très grand docteur, s'est dit à un moment donné avec son copain, on va dire des mots en hébreu. Il est en France. Les ondes sonores de Aleph dessinaient la lettre Aleph. Les ondes sonores du Bet dessinaient un Bet. Écoutez-moi, le mec, je le connais, hein. Il est devenu fou, il a fait tchouva. Et aujourd'hui, il est un grand médecin à Yerushalayim. Il s'appelle Docteur Tamoun. Incroyable. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que la structure de la langue hébraïque, comme je vous le disais dans d'autres cours, elle a la force de dessiner la chose. La chose est, quand je la dis. Et ça, c'est une puissance qui n'existe nulle part ailleurs.
C'est pour ça qu'on dit que
les prières en hébreu... C'est pour ça que les prières sont en hébreu et les mots que vous sortez de votre bouche, ça crée des structures dans le monde que vous ne voyez pas, qui existent à jamais. Ça veut dire, chaque fois que je lâche un mot, il est là dans l'univers, c'est fini, il ne peut plus disparaître. Il ne fera que se transformer en d'autres choses, mais il est là, c'est fini.
Que ce soit un mot une prière ou un mot en hébreu comme un mitraillant qui parle.
Exactement. Mais même en français. Si Chas v'Shalom, tu t'énerves et tu dis des mots sur quelqu'un, ces mots-là vont rester à jamais dans l'espace. D'accord ? À tel point que les sages nous disent que quand je dis des mots, ça crée des anges qui sont autour de moi, qui me protégeront un jour où je passerai dans cet endroit et que je devrais avoir une protection. Voilà. L'importance aussi de s'asseoir toujours à la même place au Beit HaKnesset. Ne pas changer sans arrêt de place. Oui, très important. Parce qu'il y a, tu as créé comme un canal, une cheminée, par laquelle toi tu peux monter. Et si tu vas dans la cheminée de quelqu'un d'autre, c'est pas la même. Il y a des choses très 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 importantes qu'on ne sait pas. Donc, je suis là un petit peu pour vous dire les choses. Et je reviens à la base, la consommation. Manger avec une pensée. Manger avec une pensée, ce n'est pas du tout comme manger juste parce que tu as faim. Aucun rapport. Manger quand tu fais une bénédiction et quand tu sais ce que tu dis, quand tu bénis et que tu fais attention à ta bracha, et quand tu connais quelques secrets de ce que tu es en train d'intégrer dans ton être, bien ça change complètement et tu deviens de plus en plus sain parce que ta nourriture est différente. C'est pas que tu manges de la matière, mais tu manges en réalité de la matière mélangée à de l'esprit. Quand
c'est pas cachère, il n'y a pas de sagesse extrêmement.
Nachon. Quand c'est pas cachère, non seulement il n'y a pas ça, mais il y a des obstructeurs de lumière. C'est-à-dire à chaque fois que tu manges un aliment qui n'est pas cachère, en fait tu crées un écran qui va t'empêcher de comprendre quelque chose dans 5 minutes. Ça va t'obstruer, ça va t'étouffer.
C'est pour ça qu'après on a plus de mal à faire
tout. Exactement. Donc les gens qui ont mangé des ma'achalot asurim, qui ont consommé beaucoup de non-kasher, ils ont beaucoup de mal à comprendre les choses. Ils sont complètement bloqués dans un système mental, psychique, mais en même temps corporel, dont ils ignorent l'existence. D'accord? Donc il faut se soigner, il faut se guérir. D'ailleurs, quelqu'un qui est arrivé à un degré de sagesse, s'il mange quelque chose ne pas cachère, il vomit. Immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il a un système régulateur dans son corps qui l'auto-immunise. D'accord? Top. Donc, quelle est l'expression de tout ce que je viens de dire? C'est tout bishvat. Tout bishvat, on est assis autour d'une table pour manger. Mais, étant donné qu'il y a un seder, la consommation doit se faire d'une manière ordonnée. D'accord? Donc, vous devez connaître l'ordre des choses. Alors, il y a un ordre bien précis, et cet ordre sort d'un verset, du verset qui parle des sept fruits de la terre d'Israël. Vous vous rappelez des sept fruits de la terre d'Israël? Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous rappelez du verset qui dit, qui rappelle ces sept fruits? Eret, Chita, Seora, Gefen, Teena, Verimon, Eret, Zeit, Shemen, Udvash. Voilà, je viens de vous citer le verset. D'accord? Alors, c'est important de le voir, ce verset. Je vais vous l'écrire. Alors, on dit Eret. Je dis comme ça, d'accord? Chita ou Seora Vegefe Teena Verimon Eret Zeit Shemen ou Dvash.
C'est l'ordre. Oui, il y a le miel dedans.
C'est les dates.
Ah,
et,
tu peux répéter doucement, c'est quoi
tes éléments? Eret, Chita, Chet, Geshet, Seora, Gefen, Teena, Rimon, Zechemel.
C'est quoi Rimon?
C'est
la
grenade.
C'est la grenade.
Combien il y a?
C'est 7.
D'accord? Alors, la Torah, elle ne parle pas juste pour nous donner sept éléments et peu importe comment elle les a mis. Elle a un ordre. Elle les a dit en ordre. Attends, tout doucement. Sur quoi je vais bénir en premier?
Qui donne le pain,
c'est-à-dire un élément qui rassemble le plus. Donc il s'appelle Chita. D'accord? Chita, le blé. Seora, l'orge. Gefen, le raisin. Teena, la figue. Rimon, la grenade. L'olive, zechemen. Vache, la date. Ok? Pourquoi je fais la bénédiction sur Chita en premier? Oui, mais moi je veux... Je vous ai écrit maintenant un texte.
Comment
peut-on
faire manger le pain, enfin,
fait,
dans un ordre repas, c'est pas
plus
logique, avant de manger
le repas?
Ça paraît logique.
Il y a
fait.
Donc,
alors, mais
on
casse le pain. Alors, il y a un secret. Écoutez bien ce secret, il est énorme. Là, je vous lâche un secret du monde de la Kabbalah. D'accord? Tous les aliments qui sont le plus proches du mot « erre », c'est eux qui sont prioritaires. Seulement, il y a un problème. Il y a deux fois « erre » dans le verset. Vous voyez? Donc, le premier « erre » est plus important que le deuxième « erre » parce que c'est le début du verset. Mais, si par exemple je m'éloigne trop, eh bien le deuxième RS va prendre la priorité des choses. J'explique maintenant. Premier aliment qui est le plus proche du mot RS, c'est donc le blé. Donc c'est lui qui va venir en premier. D'accord?
Il
Maintenant, je suis obligé de passer au premier du deuxième Eretz. Parce que là, je serai déjà dans le deuxième. Donc le deuxième du premier est moins que le premier du deuxième. Donc je vais passer à l'olive. Et après, vous continuez. Le raisin. La théora, pardon. Le lorge. Qui est en réalité après la date, après le raisin, après la théna, après le rimon.
Qu'est-ce qu'on a fait ici en fait? Je vous ai donné un secret, mais vous ne l'avez pas encore compris. J'ai compris que vous n'avez pas compris.
Le deuxième, c'est quoi? C'est l'olive?
L'olive. Ouais. Maintenant, écoutez bien, bien le secret. Je l'ai dit, mais vous ne l'avez pas entendu. Vous êtes passé juste à côté. C'est d'ailleurs comme ça les secrets. C'est tellement proche que c'est loin. Quel est le secret dans ce que je viens de vous dire maintenant? Selon l'ordre, c'est que tous ceux qui sont proches de la terre d'Israël, c'est eux qui ont la bracha en premier. Pas seulement au niveau des fruits que vous allez bénir, au niveau de votre vie à vous. Plus tu es proche de la terre d'Israël dans ta conscience, plus tu es prioritaire dans la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Énorme ce secret. Je vais vous le dire en hébreu. Kol ha-karov le-eretz mukdam la-bracha. Plus tu es proche de Eretz, plus tu es prioritaire dans toutes les bénédictions. Magnifique. Magnifique. Ça veut dire que les gens qui sont bénis par Akadosh Baruch Hu, ce sont ceux qui aiment la terre d'Israël et qui sont proches d'elle. Et plus tu t'es loin dans ta conscience, dans ta prise de conscience, dans ce que tu veux de la terre, plus tu passes en dernier dans les bénédictions.
Mais
terrible. D'accord. Bénédiction, c'est toutes les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu, je lui demande de me bénir, en, je sais pas moi, dans la Parnassa, dans le Shefa, dans tout. Je parle pas de ça. Il peut avoir une richesse et. Ok. D'accord. Mais peut-être qu'ils sont pas heureux dans leur vie, j'en sais pas, je rentre pas. Ça, c'est une loi de la Gemara. C'est pas moi qui l'invente, c'est les sages de la Gemara qui le disent. D'accord?
C'est
aura. Exactement. C'est-à-dire, toujours le plus proche du mot RS, mais il y a quand même 1 et 2. D'accord?
1, 2, 3,
voilà. Il y a fait même.
Ah,
il y a fait. Quelle est la mashmaout, le sens du mot RS? Qu'est-ce que c'est RS? Non. Il y a une gématria, mais je ne parle pas de ça. Pas toujours. Qu'est-ce que c'est Eretz? Quelle est la racine du mot Eretz? Rotse, Ratson, Rats. La volonté. Ça veut dire que Eretz égale la volonté de l'homme. Qu'est-ce que c'est que la volonté de l'homme? Est-ce que l'homme a une volonté? Qu'est-ce qu'elle devrait être, la volonté?
La volonté
d'Hachem. Donc en réalité, si tu cours dans ta vie pour Akadosh Baruch Hu,
en fait, tu cours après sa volonté.
Tu cours après sa volonté, donc tu fais en réalité, tu es proche de Eretz, Israël. Okay. Donc, comment j'écris Eretz? Aleph, Resh, Tzadik. D'accord? Eh bien, comment on dit courir en hébreu? Si tu cours après le Aleph. Ça, c'est le mot Eretz. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait courir dans la vie? Qu'est-ce qui te fait avancer? Eh bien, si tu cours après le Alef d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ton ratson, bien, il devient le ratson d'Hachem. Donc, tu fais ratsonot. Tu deviens osé ratsonot. Mais si tu fais ton ratson à toi, ken, chas v'shalom, tu t'éloignes, tu ne fais que courir. Donc, c'est un shin qui court. C'est-à-dire, un shin, c'est un homme qui courra. C'est ce que c'est en hébreu? Sheret. Qu'est-ce que c'est un chéret?
Une vermine.
C'est-à-dire un cafard. Chéret, il est tout le temps en train de courir. Donc, tu es ou chéret ou eret. Chéret qui veut dire toutes les petites bestioles qui courent. Parce que le mot Chéret, c'est quoi? Chérat, tu cours, et alors? Tu cours après quoi? Tu fais pas le ratson d'Hachem. Tu cours dans la vie. Mais comme on dit, eux courent et nous courons. Mais eux, ils courent vers quoi? Les Be'er Shachat, vers rien du tout. Alors que nous courons pour dévoiler la volonté d'Hachem dans ce monde. C'est ça la grande différence. Vous comprenez maintenant que tout le Inyan de Toubishvat, c'est de réapprendre quoi? À vouloir. Donc, à manger, à consommer. Parce que quand je consomme, qu'est-ce que je fais? Je veux. J'intègre. Animafnim. D'accord? Qu'est-ce que c'est manger? C'est de prendre quelque chose qui est dans mon monde extérieur et de le ramener dans mon monde intérieur. D'accord? Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Pour connaître. Pour connaître. Mais pourquoi j'ai besoin de connaître? Il a fait, il dit, vas-y.
Pour me rapprocher, si je connais, je suis plus proche de la personne. Pour,
et parce que tu veux quoi? Tu veux en réalité t'élargir. Tu veux en fait connaître plus du monde qui t'entoure.
Je veux se rapprocher, connaître et s'élargir.
Bien fait, tu veux t'élargir en fait. Donc tu veux prendre des éléments qui sont autour de toi et les mettre dedans. Donc tu vas devenir encore plus large au niveau des connaissances. Tu veux intégrer plein de domaines. Je veux apprendre les mathématiques, je veux apprendre l'anglais, je veux apprendre la Torah, je veux apprendre machin. Donc je deviens de plus en plus large, de plus en plus large, je m'élargis. Donc je deviens une connaissance à moi tout seul. Parce que tout m'intéresse, tout me fait courir. Et ça, c'est l'homme en réalité. C'est un homme qui ne s'arrête jamais et qui veut toujours, toujours, toujours élargir. Marbé au niveau des connaissances. Donc il prouve qu'il est vivant. Donc il a un mouvement perpétuel. D'accord? Ça, c'est le tout le mot, les échol. Maintenant, si je ne sais pas manger, donc je n'intègre pas, en fait, la sagesse et le discernement dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait?
Je ne connais pas.
Et donc, je m'éloigne de la volonté d'Hachem. Que s'est-il passé au début de l'histoire humaine? L'homme n'a pas su manger comme il faut, et qu'est-ce qui s'est passé?
Il a été
renvoyé du jardin d'Éden. Donc qu'est-ce que vous faites à Toubishvat? Vous revenez au jardin d'Éden. C'est énorme, ça vous a transformé la fête, Maron. Si plus Sam en est assis, ouais, Toubishvat Igia, Khadlaï la note. En plus de ça, c'est faux, c'est pas ça. Cette chanson est fausse. Parce que c'est pas marqué
c'est
comme
pas
ça. C'est l'Aïlan.
Il
en fait, tout simplement. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de réparer la faute du premier homme. À Toubishvat, c'est le moment de réparer la faute du premier homme. Donc c'est Tikkun Adam Arishon, c'est pas moins que ça. Maintenant, Adam Arishon, il est tombé de quel monde? Du monde le plus élevé. Comment on appelle le monde le plus élevé? Non? Atzilut. Et il est tombé dans quoi? Dans Bria, Yetzira et Asiya. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant moi? Prendre des fruits de ces trois mondes pour les corriger et les ramener dans Atzilut. D'accord? Donc l'homme est tombé dans trois mondes différents. Et moi je dois le ramener en fait à son essence. Pourquoi on doit manger 10 fruits maintenant de chaque monde? Vous comprenez? Parce que chaque monde est fabriqué de 10 éléments essentiels. Ça a d'autres noms dans la Kabbalah, peu importe. Et donc quand je corrige ces 10 degrés, en fait je fais monter l'homme à sa source. Ça vous donne une nouvelle vision de la fête? Donc vous êtes en train de corriger la faute d'Adam Arishon. Alors, je vais plus loin maintenant. Si je suis en train de réparer à Toubishvat la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce que ça veut dire? que c'est la fin du tikkun. C'est fini. Si j'ai réparé ça, j'ai réparé toute l'histoire de l'humanité. Donc la fin des temps, c'est quel jour? Tout Bishvat.
Alors, faut le remettre
ouais. Ah ben parce que chaque année, tu es censé le faire. Mais tu n'arrives pas encore réellement. J'essaye.
On pas
tous bien. Si on était tous avec la Kavana et tous comme il faut pour faire ce travail-là, c'est fini. Donc, tout Bishvat, c'est le tikkun de toute l'histoire humaine.
Ça, c'est pas aussi connu que d'autres
fêtes. Il y a fait.
Il y a fait.
Ça veut dire qu'en réalité, toujours les fêtes les plus importantes sont les moins connues. Toujours c'est comme ça. Quelle est la chose la moins connue dans ton être? Ta neshama. Vous connaissez tous votre neshama. Et pourtant, c'est l'essentiel. Alors, il faut jamais dire, et pourtant, personne n'en parle. C'est justement parce que personne ne sait, personne ne fait attention à ça que c'est tellement important. Les choses les plus fortes, c'est les choses les plus petites, les moins connues. Dans l'alphabet hébraïque, quelle est la lettre la moins connue?
Yud.
Yafet. Et pourtant, c'est la plus petite. Personne n'en parle. Parce que à chaque fois que je veux écrire une lettre, je suis obligé d'écrire Yud d'abord. Quelle lettre vous voulez écrire? À chaque fois que je mets le point pour commencer une lettre, je suis obligé d'écrire un Yud, et après je le prolonge. N'importe quelle lettre, je commence par un Yud. Et pourtant, c'est la moins connue.
Même la
lettre. Elle est pareille, je commence par un yud et je le prolonge. Et chaque fois que j'écris une lettre dans la lettre, parce que les lettres sont composées de deux ou trois lettres, il y a toujours un yud qui commence. Maintenant, vous comprenez pourquoi les Allemands, sans faire exprès, nous ont appelé les yud. Eux, pour eux, c'était une malédiction. Mais en réalité, ils nous ont mis un stabilobos dans l'endroit qui nous est le plus proche. Et nous sommes effectivement des yud. D'accord? Donc le Gmar HaTikkun, la fin de toute la réparation, en fait, de l'humanité, c'est tout Bishvat. C'est magnifique. Donc ce qui a été endommagé par la consommation, par la Achila, est corrigé par la consommation, par la Achila. Maintenant, le mot consommer, vous savez, que ça a beaucoup de connotations. Un mariage qui n'a pas été consommé, et ainsi de suite. Ou un mariage consommé. Eh bien, il faut savoir qu'en réalité, c'est lié. Si tu fais un tikkun dans toutes les consommations de ta vie, que tu sais exactement comment te conduire dans toutes ces consommations, bien, à chaque fois que tu te mets à table, en réalité, tu fais le tikkun de l'être. De Adam Harishon, et donc de toute l'humanité. Voilà le secret de tout Bishvat. C'est énorme, c'est quelque chose de très 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 profond et qui touche en fait le degré le plus secret qui soit. C'est pour ça que c'est le Harizal qui est le maître en la matière, qui nous a dévoilé ce secret, qui nous a redonné en fait une fête dans l'année qui est malheureusement méconnue, négligée et pas réellement suivie. Je sais pas combien de gens vont faire leur seder dimanche soir prochain. Mais vous qui savez maintenant, c'est très important. Et quand vous allez vous marier, Hachem, faites-le. Même si vous ne mettez pas ces 30 fruits, faites un seder, même si c'est un petit peu. Mais le fait de s'asseoir là-bas, à table, et en plus il y a une lecture spéciale, que je ne vous ai pas apportée ici, mais qui se trouve dans plein de livres, un tikkun que tu dois prier en fait, ce soir-là, pour avoir, par exemple chez les hommes, un bon étrog pour Soukhot prochain. C'est-à-dire le étrog que j'aurai à Soukhot qui vient, Be'ezrat Hashem, c'est selon la bracha que j'ai faite à tout Bishvat.
Mais si on dit que c'est bien de garder des étrogs, par exemple, quand tu fais une confiture de étrog après Soukhot, d'en garder un
oui.
Pour tout Bishvat,
c'est mais c'est lié. Maintenant, pourquoi ce étrog-là? Qu'est-ce que je m'en fiche du étrog? Parce que c'est quoi le étrog?
Il y en a pas qui disent que c'est le fruit. Il y en a certains qui disent que c'était le fruit qui a été mangé par Adam.
Bien. Donc maintenant tu comprends. Si je prie pour un étrog, un beau étrog, ça veut dire que je prie pour ne plus fauter la faute d'Adam Harishon. C'est tout. Donc je fais la correction le soir de tout Bishvat. Et sa date est trop gaya. Et maintenant, vous comprenez que c'est toute la base de votre Torah. Donc, quelle est la valeur numérique du mot Etrog? 8. Et bien, on va le faire ensemble.
Aleph, c'est 1. Rosh, Tav, c'est 400. Resh, c'est 200. Vav, c'est 6. Et Gimel, c'est 3. Ça fait combien? 600. 610. D'accord? 400 et 200, 600. 601, plus 6, 607, plus 3, 610. D'accord? Et alors, c'est quoi 610? Nous avons 613 mitzvot de la Torah, n'est-ce pas?
Donc, c'est 610 plus. Plus quoi? Les 3, c'est quoi les 3? Bien fait. C'est la correction des trois mondes. Et je reviens à quoi? À 613 mitzvot de la Torah. Ça veut dire le mot étrog, c'est les 613 mitzvot. Donc quand je mange ce étrog, quand je fais la bracha du étrog que j'aurai Be'ezrat Hashem Rosh Hashanah, et que le soir de Tu Bishvat, je peux manger un étrog, d'accord? On peut manger un étrog le soir de Tu Bishvat. Il y a d'ailleurs de la confiture d'étrog. Il y a de l'alcool d'étrog aussi. Eh bien, ça corrige en fait toute cette faute du premier homme, et donc ça me corrige toute la manière de consommer durant toute l'année. Et ce qui peut sortir de ça, c'est une bonne santé et morale, psychique et physique. Et pour les femmes enceintes, c'est une zgoula pour avoir des enfants. Et plus encore de mordre le bout du étrog.
Ouais. Le bout qui est censé pas tomber.
Nahon. Après Soukot, tu mords et tu tombes enceinte. Voilà. Toda Rabba.